Kiosque Magazine.
Alors, bonjour. Bonjour et bienvenue à l'émission de Kiosque Magazine du 24 février 2015, l'émission qui, où l'on parle de voyage, de nature et de science. En onde aujourd'hui avec vous, le petit couple, les deux nouveaux, les deux novices de la radio, Yvan Deslauriers.
Bonjour.
Et Marie Lalande. Alors, Yvan, oui, on est tous les deux parce que nos collègues, d'abord Michel Audet, notre collègue, est en vacances quelque part au chaud dans le sud.
Il a toutes nos pensées.
Oui, on pense à lui. Et notre collègue André-Étienne, elle soigne sa voix, elle est aphone cette semaine.
Enfin, elle aussi, on a toutes nos pensées.
Alors, on pense à elle aussi. Et on espère les voir la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de sujets tous aussi, espérons-le, intéressants les uns que les autres. Yvan, tu vas nous parler de...
Bien, comme il fait très froid sur la Terre, je m'en vais dans l'espace. Alors, en premier lieu, je vais vous parler de la sonde Rosetta qui suit sa comète, la comète qui a envoyé une sonde Philae sur une comète. Alors, on va suivre ça un petit peu. Par la suite, on va parler de la Lune. Si on voulait s'acheter un terrain sur la Lune, est-ce qu'on pourrait? Et puis, en dernier lieu, pour faire un peu comme Michel nous fait toutes les semaines, on va aller se promener un peu dans la région de Boston et de Provincetown.
On a hâte.
À toi, Marie.
Et moi, je vais vous parler d'abord de quelqu'un qui est passé de la science à l'univers des jujubes. Ensuite, des capacités d'auto-guérison de certains singes.
Auto-dérision, c'est nous
autres. Ça, c'est nous, l'auto-dérision, oui. Et tout de suite, après la courte pause, d'un concours de popularité qui s'adresse aux oiseaux du Canada.
Ça va être intéressant. Écoutez ça.
Alors, d'abord, un article de Éric-Pierre Champagne, publié dans la Presse Plus le 9 février 2015, et dont le titre est « Et l'oiseau préféré des Canadiens est... »
Ta-da-dam.
Ta-da-dam. Les finalistes sont gros, petits, de toutes les couleurs. Ils participent à un concours afin de désigner celui qui pourrait devenir le symbole de tout un pays. Ils pourraient bien essayer de séduire le public avec leur plus beau chant, mais... Il n'est pas question ici d'une émission de télé-réalité comme La Voix. Il s'agit plutôt de déterminer l'oiseau qui pourrait devenir l'emblème du Canada. Zoom sur les meneurs de cette course. Alors, je précise que le nombre de votes obtenus pour chacun des cinq finalistes a sans doute changé depuis l'apparition de l'article. En première position... Le plongeon huard, avec 6274 votes. La popularité du huard n'est pas une surprise. Cet oiseau figure sur les pièces de 1 $ au Canada et il a aussi un timbre à son effigie. C'est également l'oiseau emblème de l'Ontario. Le journaliste Pierre Gingras estime que c'est un bon choix de la part du public. Par contre, Jean-Sébastien Guénette, qui est directeur général du regroupement Québec Oiseaux, affirme que le plongeon huard ne devrait même pas être dans la course. Selon lui, tous les oiseaux qui sont déjà l'emblème d'une province devraient être exclus du concours. En deuxième position, le harfang des neiges avec 4702 votes. Le harfang des neiges, lui, est l'emblème du Québec. C'est également le nom d'un vin commercialisé au Québec. Pierre Gingras nous dit « C'est quand même un peu étonnant qu'il se retrouve là. C'est un oiseau qu'on trouve assez rarement au Québec. Mais c'est un oiseau mythique. Il est gros et il est beau. Un bon point pour le harfang, cependant, il vit au pays à longueur d'année, contrairement à d'autres espèces qui migrent vers le sud à l'automne. » En troisième position, le mésanger du Canada avec 3751 votes.
Le mésanger? C'est un nom peu commun, n'est-ce pas?
C'est un oiseau qui est aussi connu sous le nom de jais du Canada ou jais gris. Lui aussi reste au pays toute l'année, puisqu'il aime particulièrement le climat froid, lui. Le mésanger ne craint généralement pas les humains dont il s'approche pour se nourrir. Selon Jean-Sébastien Guénette, directeur général du regroupement Québec Oiseaux, c'est lui qui devrait être désigné l'oiseau national du Canada.
Ça, on a déjà entendu ça.
Oui, oui. En quatrième position, la Bernache du Canada avec 1883 votes. Alors, qui n'a pas déjà entendu à l'automne une volée de bernaches se dirigeant vers le sud pour y passer l'hiver? Et c'est là, justement, le problème de cette espèce, selon le directeur général du regroupement Québec Oiseaux, Jean-Sébastien Guénette. Il faudrait, selon lui, que les oiseaux en lice à ce concours restent au Canada les quatre saisons. Sinon, comment peuvent-ils devenir l'emblème du pays? En cinquième position, la mésange à tête noire, avec 1474 votes. Il n'est pas impossible que vous ayez déjà aperçu une mésange à tête noire, puisque cette espèce aime bien s'approcher des habitations pendant l'hiver. Mais, comme deux autres oiseaux de ce top 5, il est aussi l'emblème d'une province, le Nouveau-Brunswick, dans ce cas-ci.
Est-ce que c'est un concours qui fait l'unanimité chez les experts?
Le concours du Canadian Geographic et de la Société de géographie nationale du Canada, qui durera toute l'année 2015, propose actuellement une quarantaine d'aspirants au titre, mais il ne fait pas l'unanimité chez les experts consultés. Michel Gosselin, ornithologue et directeur de la collection des oiseaux du Musée canadien de la faune, a des réserves par rapport à ce vote populaire. Selon lui, le Canada a déjà un emblème national qui est un mammifère, le castor, et il se demande si on doit avoir un emblème de chaque espèce animale. Jean-Sébastien Guénette, du regroupement Québec Oiseaux, et le journaliste Pierre Gingras, spécialiste des plantes et des oiseaux, voient, eux, ce projet d'un bon œil parce que ça s'adresse au grand public, ça permet de faire prendre conscience de l'importance des milieux naturels et de l'environnement. Donc, un concours à suivre avec attention. Pour voter, on peut aller sur le site Internet de la Société géographique royale du Canada, dont l'adresse Internet est www.canadiangeographic.ca/nationalbird.fr.
Je pense, Marie, qu'on devrait remercier Jean-Sébastien Laliberté pour avoir imité, pour avoir trouvé le son de chacun des oiseaux.
Complètement, merci Jean-Sébastien. Je rappelle que c'était un article de Éric-Pierre Champagne, publié dans la Presse Plus le 9 février 2015.
Voici maintenant deux courts articles sur la situation actuelle de la sonde Rosetta. Rosetta est devenue célèbre en novembre dernier en envoyant sa petite sœur, la sonde Philae, sur la comète Chury. Alors, l'article s'intitule « Où est Philae? Sur une comète sale ». Il est tiré du site de l'agence Science Presse du 6 février 2015. La sonde spatiale Rosetta pourrait ne jamais localiser sa petite sœur Philae échouée sur la comète depuis 3 mois. Mais en attendant, elle continue d'en apprendre assez pour oser réécrire l'une des plus populaires métaphores de l'astronomie, la comète ne serait pas une boule de neige sale.
Est-ce qu'on connaîtra bientôt ce qu'est vraiment une comète?
C'est plutôt une boule de poussière avec de la neige. C'est la description qui ressort des données accumulées depuis que Rosetta tourne autour de la comète Chury. D'autres sont à venir, mais déjà, les planétologues ne cessent d'écrire combien la comète est plus étrange que prévu. Poudreuse, quantité d'escarpements, avec ce qui ressemble à des dunes de sable, mais qui ne peut pas en être. avec de l'eau qui diffère de la nôtre, contredisant la théorie voulant que la Terre aurait jadis reçu son eau des comètes, et surtout avec un ratio poussière-gaz où la poussière domine davantage que ce qui avait été estimé. Les instruments de Rosetta permettent d'arriver à ces conclusions à distance, mais aussi parce que depuis 6 mois, Rosetta a reçu des micro-fragments de la comète directement sur ses instruments. Parmi ces fragments, des composés organiques, ces molécules complexes sans lesquelles la vie n'existerait pas. Si ce n'est pas la première fois qu'on détecte des molécules organiques dans l'espace, c'est la première fois qu'on en voit sur la surface même d'une comète, puisqu'on doit ses observations à Philae elle-même dans les heures qui ont suivi son atterrissage le 12 novembre, avant qu'elle ne tombe en hibernation.
Et qu'est-ce qu'il en est de Philae aujourd'hui?
On ignore toujours où elle se trouve, bien que la zone probable ne mesure que 350 mètres par 30 mètres. L'équipe de l'Agence spatiale européenne a néanmoins annoncé le 30 janvier sur son blog qu'elle abandonnait l'idée de faire un effort particulier pour localiser Philae. Cela aurait impliqué un changement temporaire d'orbite pour Rosetta à la mi-février afin de la faire passer à seulement 6 km au-dessus de la zone présumée. Si l'idée a été abandonnée, c'est parce que rien ne garantit qu'on puisse voir Philae sur une photo de cette surface très inégale et parsemée d'ombres. Et c'est aussi parce que s'approcher d'une comète comporte des risques. Plus la chaleur du Soleil se fait sentir, plus cela crée des jets imprévisibles de gaz et de poussière. Et le meilleur est à venir. De son poste d'observation, Rosetta risque de voir la comète changer d'apparence dans les prochaines semaines. Elle sera au point de son orbite le plus rapproché du Soleil en août. Et il reste la possibilité que les rayons de ce Soleil ne réveillent les panneaux solaires de Philae avant le mois d'août. Alors, cet article était « Où est Philae? » sur une comète sale, de l'agence Science Presse, le 6 février 2015. Je poursuis avec un article qui est intitulé « Rosetta survole la comète Chury à 6 km de sa surface » que j'ai trouvé sur le site de Futura Science par Xavier Demirzman, excusez la prononciation, et paru le 18 février 2015. Alors, Rosetta a littéralement flirté avec la surface de l'astre ce samedi 14 février, à quelques 6 km seulement au-dessus de la région baptisée Imhotep, située sur le plus gros des deux lobes qui la caractérisent. Prévue de longue date, cette opération scientifique visait une nouvelle moisson de données sur son activité croissante de dégazage. Ce survol a permis de nous fournir des mesures en haute résolution de sa surface dans plusieurs longueurs d'onde, déclarait Matt Taylor, membre de l'équipe scientifique de la mission, et de nous donner l'occasion de goûter et renifler les parties les plus intimes de son atmosphère.
On dirait que tu fais une suite à ta lecture sur l'amour et les cinq sens de la semaine dernière.
Effectivement, les chercheurs souhaitent en effet mieux comprendre les interactions de la source avec la chevelure. Ouh. On appelle ça coma aussi, coma comète, c'est drôle, hein? Qu'elle constitue. Épier ces modifications et observer avec le plus de détails possible l'évasion du gaz et des poussières, laquelle s'accélère à l'approche du périhélie. Ça, c'est le point orbital le plus près du Soleil, puis ça va avoir lieu le 13 août prochain. Selon leurs estimations, la comète devrait perdre une vingtaine de mètres d'épaisseur au terme de cette visite dans le système solaire interne. Rappelons que, contrairement à ce que les images suggèrent, celles-ci sont entre autres retravaillées dans leur contraste et luminosité, la comète est un astre assez sombre qui ne réfléchit que 6 % de la lumière solaire. Aussi, lors de son survol très rapproché programmé pour la Saint-Valentin, Rosetta a-t-elle bénéficié d'un éclairage important, le Soleil alors dans son dos, pour admirer les courbes et le grain de la peau, certes un peu croûteuse et crevassée, de son partenaire aussi âgé que notre système solaire, c'est-à-dire 4,5 milliards d'années. Après cette séquence inédite, la sonde spatiale a repris le large pour s'éloigner de 253 km le 17 février. à ces distances plus élevées, les scientifiques disposeront d'une vision grand angle de l'as qui leur permettront de mieux appréhender son environnement et sa chevelure qui n'a de cesse de s'allonger.
Et des nouvelles de Philae?
Même si cela ne faisait pas partie du programme, certaines images collectées pourront peut-être aider les chercheurs à localiser de façon certaine Philae, pour l'instant endormie à l'ombre d'une falaise. Cet article était « Rosetta survole la comète Chury à 6 km de sa surface », qui était sur le site Futura Science et écrit par Xavier Demersman le 18 février 2015.
Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs c'est périssable. Puis les bonbons c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton. Mais je vous ai apporté des bonbons. J'espère qu'on pourra se promener, que madame votre mère ne dira rien. On ira voir passer les trains à 8 heures. Moi je vous ramènerai. Quel beau dimanche, allez, pour la saison. Je vous ai apporté des bonbons. Si vous saviez ce que je suis fier de vous voir pendu à mon bras, les gens me regardent au travers, il y en a même qui rient derrière moi. Le monde est plein de polissons. Je vous ai apporté des bonbons. Oh oui, Germaine est moins bien que vous. Oh oui, Germaine, elle est moins belle. C'est vrai que Germaine a des cheveux roux. C'est vrai que Germaine, elle est cruelle. Ça, vous avez 1000 fois raison. Je vous ai apporté des bonbons. Et nous voilà sur la grande place. Sur le kiosque, on joue Mozart. Mais dites-moi que c'est par hasard qu'il y a là votre ami Léon. Si vous voulez que je cède la place, j'avais apporté des bonbons. Mais bonjour, mademoiselle Germaine. Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs c'est périssable. Puis les bonbons c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton. Allez. Je vous ai apporté.
Alors une pause musicale tout à fait dans le ton, les bonbons de Jacques Brel. Alors je vous présente deux courts articles. Le premier sur quelqu'un qui est passé de la science à l'univers des jujubes, puis ensuite sur les bienfaits d'une sieste. D'abord, donc, l'article « De la science à l'univers des jujubes », un article d'Émilie Bilodeau, publié dans la Presse Plus dans la section « Pause santé » du 29 janvier 2015. Depuis à peine un an, Sarah Segal met en marché des jujubes au parfum pour le moins surprenant. Pourtant, rien ne prédestinait la jeune femme qui a étudié en sciences de l'environnement et travaillé pour les Nations unies à lancer sa propre marque de bonbons. Depuis qu'elle a fondé Squish, Sarah Segal remarque une chose. Tout le monde a un souvenir associé aux jujubes et il s'agit toujours d'histoires heureuses. Pour sa part, les jujubes lui rappellent les oursons dans un sachet rose qu'elle mangeait à chacune de ses sorties au cinéma. Quant à Julie Lorrain, chef des opérations de Squish, les friandises à la mangue et aux fruits de la passion lui rappellent plutôt Haïti, où elle est née et où elle a grandi. Elle nous dit « Quand j'étais jeune, on avait un manguier sur notre terrain. Je me rappelle qu'on lançait des cailloux pour faire tomber les mangues. Ces jujubes, ils goûtent exactement comme dans mes souvenirs. » Sarah Segal ne fabrique pas ses bonbons elle-même. Elle mise sur des artisans qui ont à cœur les ingrédients qu'ils emploient. Les jujubes à la mangue, par exemple, contiennent de véritables morceaux de fruits. Les arômes naturels sont presque toujours utilisés. Dans certains cas, on remplace la gélatine animale par une gélatine végétale pour plaire aux végétariens et aux végétaliens. Plusieurs friandises sont certifiées sans noix, sans œufs et sans produits laitiers. Certaines sont même biologiques, sans gluten ou cachère.
Mais qu'est-ce qui est le parcours de Mme Segal dans le monde des jujubes?
Alors jusqu'à maintenant, Sarah Segal n'avait jamais pensé travailler dans l'univers coloré et sucré des bonbons. Après ses études en sciences de l'environnement à l'Université McGill, elle s'est exilée en Chine pour travailler pour les Nations unies. Là-bas, elle s'est découvert une passion pour le thé. À son retour au Québec, elle s'est jointe à David's Tea, l'entreprise fondée par son père et son cousin, pour mettre au point de nouveaux parfums de boissons chaudes. « Pour moi, dit-elle, c'était une combinaison de créativité et de science. C'était super intéressant de travailler avec des feuilles de thé de partout dans le monde et de trouver des ingrédients à combiner comme des fleurs, de petits bonbons ou des morceaux de chocolat. C'est à ce moment que j'ai réalisé qu'il ne se faisait pas grand-chose d'original dans le domaine des bonbons », raconte Sarah Segal. Elle ajoute « J'ai trouvé des gens incroyablement soucieux de leur travail qui n'étaient pas assez célébrés. Je me suis dit que j'allais créer un espace pour mettre en valeur leurs bonbons. » Avant de lancer sa marque, Sarah a fait appel à un sommelier par l'entremise d'un ami. Elle nous dit « Moi, j'aimais le goût des jujubes, mais je voulais savoir si les gens allaient aussi les aimer. » Le sommelier a pris des notes de dégustation comme on le ferait avec du vin, du thé ou du fromage. Il était tellement sérieux que moi, ça me faisait plutôt rigoler.
Ça a l'air vraiment bon. Est-ce qu'on peut en trouver près de chez nous?
Il y a une boutique Squish depuis avril 2014 au Carrefour Laval. Les fermes Loufa distribuent certains jujubes biologiques. On prévoit l'ouverture d'une nouvelle boutique en mai au centre Fairview-Pointe-Claire. Et on lancera en mars, ça c'est dans quelques jours, une boutique en ligne. De quoi éveiller les souvenirs d'enfance de nombreux adultes. Alors, c'était un article alléchant, écrit par Émilie Bilodeau, publié dans la section Pause Santé de la Presse Plus du 29 janvier dernier. Et je vous lis rapidement un article publié dans la presse le 11 février 2015, dont le titre est « Une sieste combattrait l'effet néfaste d'une mauvaise nuit de sommeil ». Une courte sieste semble en mesure de soulager le stress et de relancer le système immunitaire d'hommes qui n'ont dormi que 2 heures la nuit précédente, selon ce que révèle une nouvelle étude publiée par le, et c'est un défi pour moi ici, le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.
Hey, fantastique.
Bravo. Environ le tiers des adultes américains affirment dormir 6 heures ou moins chaque nuit. Le docteur Bryce Farrow de l'Université Paris-Descartes-Sorbonne à Paris affirme qu'une sieste de seulement 30 minutes semble être suffisante pour renverser l'impact hormonal d'une mauvaise nuit de sommeil. Les chercheurs ont constaté chez les sujets qui n'avaient dormi que 2 heures la nuit précédente des taux élevés d'une hormone qui accélère le rythme cardiaque, la tension artérielle et la glycémie. En revanche, aucun taux élevé n'a été décelé chez les sujets qui, après n'avoir dormi que 2 heures, avaient pu faire une sieste. Le manque de sommeil semblait aussi nuire au niveau d'une protéine aux propriétés antivirales. Ces niveaux chutaient après une mauvaise nuit de sommeil, mais demeuraient normaux après une sieste. Alors vivement, les siestes! C'était un article publié dans la presse le 11 février dernier.
Alors, mes nouvelles brèves pour l'émission d'aujourd'hui sont un peu influencées par la température. Ce sont 13 raisons qui font qu'on aime l'hiver québécois. Et j'ai trouvé ça dans le magazine Châtelaine du 27 janvier. Alors, patins, glissades et chocolat chaud. Tradition oblige, presque chaque village du Québec possède son église et son carnaval d'hiver. Partout, c'est la même formule éprouvée, à quelques variantes près, pour nous faire apprécier la blanche saison. Anneaux de glace, sculpture sur neige, air de glissade, spectacle en plein air et boissons chaudes. Pour les familles, c'est le bonheur total. Au-delà des archi-connues fêtes des neiges de Montréal et Carnaval de Québec, il y a aussi le village de glace de Roberval. Sainte-Rose-en-Blanc, à Laval, le bal de neige de Gatineau et Ottawa, où j'ai vécu quelques années, et les nuits polaires de Trois-Rivières, le carnaval glisse et glace de Terrebonne et finalement le carnaval de l'île aux Coudres. De quoi donner envie de passer l'hiver au frais.
Alors, aux États-Unis, la reine des neiges de Disney est recherchée par la police. Elsa, la reine des neiges, est recherchée par la police du Kentucky. Donc, on annonce ça, femme blonde en robe bleue, avis de recherche, description physique et conseils de sécurité ont été publiés sur la page Facebook officielle de la police du comté d'Harlan dans le Kentucky, au centre des États-Unis. Le département de la police d'Harlan a émis un mandat d'arrêt contre la reine Elsa du royaume d'Arendelle. Le suspect est une femme blonde vue pour la dernière fois vêtue d'une longue robe bleue et est connue pour chanter à tue-tête « Libérée, délivrée ». Comme vous pouvez le constater par cette météo, elle est très dangereuse, ne tentez aucune approche seule. Blague à part, la police prévient quelques minutes après la plaisanterie initiée sur Facebook les réels dangers de cette météo capricieuse et appelle à la solidarité. La météo va empirer. Prenez vos précautions pour rester en sécurité et au chaud. Évitez les routes, sauf en cas d'urgence. Restez vigilants et aidez ceux qui en ont besoin. La petite blague des policiers américains a déchaîné les médias locaux et a fait le tour des réseaux sociaux en un éclair. La police de Darlin n'en revient toujours pas. Les policiers ne perdent pas pour autant des yeux leur mission. Cette blague est justement l'occasion de rappeler les conseils de prudence et de sécurité aux citoyens.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Rebonjour. Alors, on reste dans l'espace, dans mon cas. Et c'est un article qui s'appelle « Acheter la Lune » que j'ai trouvé sur le site de l'agence Science Presse le 10 février 2015. Si vous débarquez demain dans un coin de la planète Mars, pouvez-vous devenir propriétaire du terrain?
Est-ce que tu veux dire qu'un jour, il pourrait y avoir des affiches à vendre sur Mars?
Non. En vertu d'un traité international signé il y a 47 ans, sauf que si les compagnies privées continuent de montrer le bout de leur nez, elles n'accepteront plus longtemps cette réponse. La base lunaire Alpha dans la série Cosmos 1999,
tu te souviens de ça, hein? Oui, tout à fait.
Si elle avait appartenu à une compagnie privée, qu'est-ce qui serait arrivé? Nous reconnaissons le désir du secteur privé de protéger ses investissements et son personnel sur la Lune ou sur d'autres corps célestes. Cette lettre émanant d'un directeur de l'administration américaine de l'aviation signale un changement de cap dans l'exploration spatiale. Cette lettre est datée du 22 décembre. Elle a été obtenue par Reuters au début de février. Pour l'instant, le seul texte de référence est le traité de l'espace, signé sous l'égide des Nations unies en 1967. Il stipule qu'aucun pays ne peut proclamer sa souveraineté sur quelque partie de l'espace extra-atmosphérique, incluant la Lune et les autres planètes. L'espace est, autrement dit, une zone internationale au même titre que les océans. En 1979 a été ajouté à cette entente le traité sur la Lune, signé aujourd'hui par 16 pays, dont la France, mais pas les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie. C'était l'époque de la guerre froide en 1979 entre Washington et Moscou, et plusieurs souhaitaient ne pas transposer là-haut les querelles terrestres. Mais c'était surtout une époque où on n'imaginait pas qu'une course à l'espace puisse être menée par autre chose que des pays.
N'y a-t-il pas des compagnies privées qui pensent offrir des vols commerciaux dans l'espace?
Eh oui! Deux compagnies, par exemple, SpaceX et Boeing, sont actuellement en lice pour faire la navette entre la Terre et la station spatiale vers 2017. Google a lancé un concours, Lunar X Prize, par lequel elle versera 30 millions de dollars à la première compagnie privée qui fera se poser une sonde sur la Lune. D'autres planchent sur des projets pour de l'exploitation minière sur la Lune. Il y a Bigelow Aerospace ou sur un astéroïde, par exemple Planetary Resources ou Deep Space Industries. Sans compter les projets privés d'une expédition vers Mars. Ce sont tous des projets à long terme, mais pour attirer des investisseurs, certains jugent qu'il leur faut une assurance légale.
Quel genre d'assurance légale a-t-on en tête ici?
Et c'est là-dessus qu'ont discrètement commencé à travailler des gens au sein de l'Administration américaine de l'aviation, la FAA, la Federal Aviation Administration, selon les documents obtenus par l'agence de presse Reuters. C'est la FAA qui accorde des permis de lancement d'engins spatiaux aux compagnies privées. La lettre du 22 décembre était une réponse à une requête de l'année précédente de la compagnie Bigelow Aerospace, qui prépare un projet d'habitat lunaire gonflable. Bigelow y faisait état de son intention d'en faire la première étape d'une base lunaire destinée à l'exploration scientifique et à l'exploitation minière. Et elle demandait à la FAA de lui accorder les droits exclusifs sur la région de la Lune où elle s'installera. La FAA lui répond de manière encourageante. Elle va travailler pour qu'il soit possible que Bigelow, ou une autre, puisse acquérir les droits exclusifs sur un territoire lunaire. Autrement dit, une division de la Lune en zone d'exploitation, de la même façon qu'on accorde des permis à des compagnies minières sur Terre.
Particulier.
Tout à fait. Les documents ne permettent pas d'apprendre comment s'y prendra la FAA, puisqu'un tel droit n'existe pas encore. Mais en supposant que le gouvernement américain donne à la FAA le droit d'émettre des permis pour l'exploitation minière sur la Lune, cette exclusivité n'aurait d'ailleurs aucune valeur aux yeux des compagnies chinoises ou russes. Mais le fait que cette réponse ait été donnée à la compagnie Bigelow signifie que des gens, au sein de l'appareil gouvernemental, ont déjà commencé à travailler sur la façon d'encadrer tout cela dans le droit international. Ou faudrait peut-être dire désormais le droit interplanétaire. C'était l'article « Acheter la Lune » trouvé sur le site Agence Science Presse le 10 février 2015.
Maintenant, un article dont le titre est « Le singe, médecin malgré lui », écrit par Bruno D. Cotte, publié le 11 février 2015 dans la section « Sciences » de l'Express. Plus l'homme étudie les chimpanzés et leurs cousins, plus les frontières s'estompent. Une exposition au Musée national d'histoire naturelle de Paris montre que nous partageons avec ces primates nombre de facultés et d'émotions. Empathie, altruisme, langage, etc. Ils peuvent même nous donner des leçons d'automédication. Nous partageons toujours avec les chimpanzés quasiment le même patrimoine génétique. 98,5% des 3 milliards de paires de bases formant notre double d'hélice d'ADN sont identiques. Il s'agit d'animaux craintifs et difficiles à approcher. Cela explique peut-être pourquoi la primatologie de terrain demeure un champ de recherche récent. Il remonte en effet à la fin des années 1960. Les grands singes peuvent nous apprendre beaucoup de choses, notamment dans le domaine médical. On parle ici de zoopharmacognosie, qui consiste à étudier l'automédication des primates. En 1977, Richard Wrangham, élève de Jane Goodall, la célèbre ethnologue britannique, observe un groupe de chimpanzés de Gombe en Tanzanie et constate que certains d'entre eux avalent des feuilles qui ne font pas partie de leur régime quotidien. Il émet alors l'hypothèse qu'ils puissent se soigner seuls. Dans les années 1990, Wrangham poursuit ses travaux en Ouganda, dans le cœur du parc de Kibale, où il habitue, c'est entre guillemets, une cinquantaine de singes vivant en liberté à la présence de l'homme. Le parc devient alors un terrain idéal pour les primatologues qui y mènent des missions de plusieurs mois. Sabrina Krief, vétérinaire et maître de conférences au Musée national d'histoire naturelle de Paris, en a effectué une trentaine d'expéditions de ce type. Un matin, dit-elle, je m'aperçois qu'une des femelles chimpanzés, Kilimi, âgée de 6 ans, se tient à l'écart du groupe. Elle souffre de diarrhée et ne mange pas, à l'exception des écorces d'un arbre appelé Albizia grandibracteata, absent de son régime alimentaire ordinaire, raconte la chercheuse. Au bout de 2 jours, elle était guérie. La Française rapporte à Paris des échantillons de la plante qu'elle analyse en laboratoire. Celle-ci possède 2 molécules aux propriétés antiparasitaires et antitumorales. Ces comportements d'automédication ont été observés sur plus de 10 sites d'études des grands singes. Ils varient en fonction des végétaux qu'ils ont à leur disposition, note David Bone, chercheur, qui a travaillé au cœur de la forêt tropicale de Louis-Cotalé, en République démocratique du Congo, qui habite la dernière population de bonobos. Ces primates possèdent une surprenante connaissance de leur environnement, mais sont moins graciles que leurs cousins et considérés comme les hippies de la jungle.
Les hippies de la jungle. Pourquoi les bonobos sont-ils considérés ainsi?
Parce qu'ils ont coutume de résoudre le moindre conflit, non en se battant, mais en faisant l'amour.
Oh, c'est intéressant, ça.
Ben oui, ce sont d'excellents jardiniers, ajoute le biologiste. Les bonobos avalent certaines graines qu'ils digèrent, accélérant leur germination, avant de les expulser, en moyenne à 1,2 km de l'endroit où elles ont été ingérées. Un geste pas très auguste de semeur, mais qui permet la reproduction d'espèces légumineuses. Les autres grands singes possèdent aussi un régime frugivore, même s'ils se différencient de leurs congénères. Les gorilles, en fonction des saisons, peuvent devenir quasiment herbivores, si bien que leur estomac est habitué à toutes sortes de plantes. Il me paraît compliqué de savoir s'ils les ingurgitent pour des raisons thérapeutiques, mais le fait est là, ces grands singes sont en moyenne moins malades que les autres.
Alors, peut-on vraiment parler de science des plantes?
Alors, les plus étudiés des grands singes, les chimpanzés, consomment jusqu'à 117 espèces végétales et 10% d'entre elles ont des vertus thérapeutiques. D'une part, ils utilisent une gamme de plantes en fonction de leurs symptômes internes. On parle de paludisme, de diarrhée, parasites, toux, mal de gorge, et de symptômes externes. Donc, on parle d'infections cutanées, de dermatose. D'autre part, ils savent les associer avec d'autres ingrédients qu'ils trouvent dans la nature. Un jour, Makoku, l'un des sujets d'étude, souffrait de fièvre. Les spécialistes l'ont vu mettre au point sa propre ordonnance. Non seulement il s'est mis à sucer la tige d'un arbuste, aux vertus antipaludiques, mais il a ajouté à son traitement des petites bouchées d'argile rouge. Recréée en laboratoire, l'expérience a montré que ce mélange était plus efficace que les tiges seules. D'où provient un tel savoir? Faute de données suffisantes, les scientifiques n'osent répondre, mais ils s'émerveillent des découvertes qu'ils effectuent à chaque nouvelle mission. À voir donc, si vous avez la chance de passer par Paris, l'exposition sur la piste des grands singes au Musée national d'histoire naturelle. C'était un article publié dans l'Express par Bruno D. Cotte le 11 février 2015.
Danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent, la mer des reflets changeants sous la pluie, la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs. A bercé le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie.
Alors, merci Jean-Sébastien pour le choix de cette chanson. C'est « La mer », mais chantée par Chantal Chamberlain. Et ça nous amène au prochain article qui s'appelle « Mer et macadam au Massachusetts ». C'est un article écrit par Jim Brosseau dans la revue « Touring » de CAA Québec du printemps 2015. Et on vous parle ici, ben, c'est un peu parce que Michel Audet nous a habitués à toutes les semaines à nous amener quelque part dans le monde. Et même s'il n'est pas là, je voulais apporter cette vision-là aussi. Alors, je vous amène dans un long week-end printanier. Il faut commencer à y penser quand même. Deux en un. Urbain à Boston et balnéaire à Provincetown. Ça commence le vendredi. Commencez la journée en prenant le pouls de la scène culturelle de Boston, au musée Isabella Stewart Gardner. Ce palais de style vénitien nous propose d'admirer quelques 2500 œuvres de Rembrandt, Manet et consorts, comme si vous étiez un hôte de la mécène qui vécut dans cette demeure au 19e siècle. En 10 minutes à pied, si vous le désirez, vous voilà au célèbre Musée des Beaux-Arts, l'un des plus grands musées aux États-Unis.
Magnifique musée.
Vous pouvez aussi passer la matinée à Cambridge. Si vous voyagez avec des enfants, c'est une raison de plus de visiter le musée d'histoire naturelle de Harvard, puis d'explorer le magnifique campus. À l'heure du lunch, rejoignez professeurs et étudiants pour un duo bière et burger à la Russell House Tavern. Les enfants sont aussi les bienvenus, situés au Harvard Square. Gardez-vous un peu de temps pour visiter la bibliothèque et le musée présidentiel John F. Kennedy, qui s'élève sur une pointe de terre face à l'océan Atlantique. À travers le mobilier et les programmes de télé de l'époque Kennedy, ce sont les années 60, tout autant que le président, qui sont à l'honneur. On y retrouve aussi Freedom 7, la capsule qui a propulsé dans l'espace le premier astronaute américain, Alan B. Shepard. La fin de l'après-midi est le moment idéal pour découvrir Boston à pied, notamment les jolies maisons du chic quartier de Beacon Hill, à proximité du jardin Boston Common. Tout à côté, le Freedom Trail. De ce temps-ci, probablement qu'on ne verrait pas le Freedom Trail à cause de la neige.
Non.
C'est un parcours pédestre qui valorise des sites et des monuments relatifs à la Révolution américaine. Sur ce chemin, une halte s'impose à l'Union Oyster House pour se régaler de moules et de cornbread, ces délicieux petits pains de maïs. Ensuite, cap sur le South End pour finir la soirée dans ce secteur fréquenté par les étudiants et plus précisément au Beehive, un bar où la musique est aussi variée que l'âge des clients. Ça serait bon pour nous deux, ça.
Oui, tout à fait.
Samedi. Après un petit déjeuner à la Flower Bakery, située dans le South End, cet établissement de la réputée chef pâtissière Joanne Chang vaut le détour même si on ne loge pas dans ces parages. Attardez-vous dans le secteur du port. Parmi ses attraits, on note Faneuil Hall, je l'ai mal prononcé encore.
Faneuil Hall.
OK. Un marché comptant plus de 100 enseignes, ainsi que le New England Aquarium. Ça, c'est ce que t'aimes beaucoup.
C'est un très bel aquarium.
Et son réservoir de 200 000 gallons, complètement rénové en 2013. Fait que ça, on ne l'a pas vu depuis la rénovation. Et qui abrite plus de 2000 animaux marins de 140 espèces différentes. On poursuit la promenade jusqu'au World Trade Center et pourquoi pas, on se détend en prenant un verre ou un repas dans l'un des restaurants qui bordent les quais. Du World Trade Center, il est facile de monter à bord d'un traversier rapide qui se rend en 90 minutes à Provincetown, à Cape Cod. Le traversier fonctionne de la mi-mai à la mi-octobre. Arrivé sur cette pointe de terre, une petite fringale. Les restaurants Tin Pan Alley, Way Downtown ou encore George's Pizza, plus modestes, sauront vous rassasier. En prime, tous trois ont une superbe vue sur la baie. Le temps clément vous donne envie de vous baigner? Ailez un taxi et cinq minutes plus tard, vous pourrez vous détendre sur les plages de Herring Cove ou de Race Point. Sinon, flânez plutôt le long de la fameuse Commercial Street qui borne la baie. Vous prendrez plaisir à déambuler sur cette étroite artère principale bordée de boutiques, de restaurants et de galeries d'art. D'autant plus agréable en début de saison que les hordes d'estivants ne l'ont pas encore envahi. Notez cependant que plusieurs établissements de Provincetown ne sont pas ouverts avant le mois de mai. La vie nocturne est particulièrement animée au bar de Crown & Anchor, surtout lorsqu'une légende locale, Bobby Wetherbe, s'installe au piano. Quant aux irréductibles noctambules, ils se partagent la piste de danse de l'Atlantic House où il n'est pas rare qu'une drag queen vienne faire son numéro.
Oui, parce que c'est reconnu à Provincetown.
Mm-hmm. Le lendemain, dimanche, après un copieux petit déjeuner dans un restaurant qu'on connaît, on mm-hmm. est déjà allé, au Café Heaven, ou chez Bayside Betsy, offrez-vous l'ascension du Pilgrim Monument.
Oui, l'estomac plein.
Oui, c'est haut. 77 mètres, là, mais après le déjeuner, c'est haut. Au sommet, la vue sur Cape Cod est spectaculaire. Le musée est aussi fort intéressant. Ensuite, vous pouvez encore faire un circuit de 40 minutes en tramway pour voir des secteurs de la ville que vous avez peut-être ratés avant de reprendre le ferry au retour à Boston. Alors, c'était l'article « Mère et Macadam au Massachusetts » écrit par Jim Brosseau dans la revue « Touring » du CAA Québec du printemps 2015.
Alors, quelques brèves. Pourquoi les chats aiment-ils les boîtes? Une étude néerlandaise vient de démontrer que les boîtes permettent de réduire le niveau de stress des chats. Tous les amis des chats le savent, les félins domestiques sont des fans inconditionnels des boîtes, notamment en carton, grandes ou petites, voire même trop petites pour eux. Mais pourquoi les chats aiment-ils tant se pelotonner dans une boîte? Claudia Vinke, vétérinaire à l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas, a tenté d'y répondre dans une étude menée au sein d'un refuge pour animaux. 19 chats nouvellement arrivés au refuge ont été séparés en deux groupes. Des boîtes ont été fournies au premier groupe, mais pas au deuxième. Les scientifiques ont alors constaté qu'au bout de plusieurs jours, les chats qui disposent de boîtes sont moins stressés, mais aussi qu'ils s'habituent plus vite à leur nouvel environnement et qu'ils sont plus prompts à interagir avec les humains. Dans ce cas, la boîte agit comme un mécanisme d'adaptation, selon la chercheuse.
Alors, toujours dans mes activités pour aimer l'hiver, la tête dans les étoiles. Vivre un contact direct avec la voûte céleste tout en étant bien emmitouflé dans son sac de couchage? Voici l'expérience proposée dans les nouveaux chalets EXP.Ciel étoilé du Parc national du Mont Mégantic. Ces micro-chalets au chic design contemporain se distinguent par leur dôme vitré placé au-dessus des lits. Pas besoin de moutons, on s'endort en comptant des étoiles.
Wow.
L'absence de pollution lumineuse dans cette première réserve internationale de ciel étoilé rend le spectacle éblouissant. Les chalets, qui accommodent de 2 à 4 personnes, sont situés dans le secteur de Franceville, que sillonne 11 km de pistes de raquettes pour la CEPAC du Québec.
Ouh. Alors, toujours au sujet de la recherche sur les boîtes et les chats, la recherche d'un espace confiné est un comportement instinctif pour le chat. Dans la nature, un espace clos permet de se cacher des prédateurs et ainsi d'augmenter ses chances de survie, mais aussi de tendre une embuscade à une proie. L'attirance des chats pour les boîtes peut aussi s'expliquer pour des raisons de confort. Les lieux restreints et clos retiennent la chaleur dont les chats ont besoin. Leur température de confort se situe en effet entre 30 et 36 degrés, ce qui n'est pas tout à fait la température actuelle à l'extérieur. Les félins peuvent aussi trouver une forme de sécurité dans un espace clos, ce qui leur permet de pratiquer leur activité favorite, dormir. Ils dorment, les chats, entre 18 et 20 heures par jour. En définitive, les chats ne considèrent pas seulement les boîtes comme de simples jouets, mais également comme un abri. Et aussi, il apparaît qu'ils en ont besoin pour leur bien-être. Alors, un conseil, ne jetez plus vos boîtes en carton, donnez-les à votre chat.
Alors, vu sur les arbres dans son enfance, qui n'a pas rêvé de dormir dans un arbre? Pour réaliser ce rêve, on se rend au refuge Perché Mont-Tremblant. 10 cabanes suspendues avec lit, poêle à bois, table à manger et attirail pour faire la cuisine ont poussé dans la magnifique forêt du centre touristique et éducatif des Laurentides à Saint-Faustin, au lac Carré. On s'y rend en raquette et on transporte ses bagages en toboggan, une expérience sans pareil pour retrouver son cœur d'enfant. Alors, c'était l'émission Kiosque Magazine du 24 février 2015. Alors, je voudrais remercier chaleureusement Jean-Sébastien Laliberté qui nous a encadrés pendant cette heure-ci avec un grand plaisir.
Merci.
Merci, Marie, aussi. C'est dans notre première expérience d'animation.
Oui.
Ça a été vraiment très plaisant.
Merci.
On s'en reparle dans notre cuisine. vous pouvez consulter le site canalm.org pour avoir accès à toutes les émissions. On aimerait avoir vos commentaires sur le canal M à commercial vuesetvoies.com ou au téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. La semaine prochaine, on s'attend de revoir et Michel et André,